بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيخ الإسلام nous allons voir ce soir un point essentiel concernant l'acceptation du jeûne et ce qu'on appelle de façon plus claire le tahsin al-sawm, l'accomplissement du jeûne de façon correcte. Et ce point c'est as-siyamu amma harram Allah, le fait de s'éloigner de tout ce qu'Allah a rendu haram. L'auteur commence, introduit on va dire ce chapitre en rappelant que les péchés ont des conséquences dans ce dunya, de ce monde, pour le croyant, parce que le péché peut occasionner une perte de baraka dans les biens, le péché peut éloigner une personne du droit chemin, le péché peut nous fermer, comme on nous protège, les portes de l'acceptation, les péchés peuvent occasionner une obscurité sur le cœur, avec le fameux hadith « Nuqtatun Sauda » et le verset « Kalla bal rana ala qulubihim ». Voilà donc quelques conséquences connues du péché. Mais ça concerne de ce dunya. Maintenant, le jour de Qiyama, le prophète alayhi salatu wassalam avait cité le cas d'une personne qu'on appelle « Al-Muflis ». Et c'est un hadith qui est très connu aussi. Il y a des sahaba. Atadruna man al-muflis. Est-ce que vous savez qui est le muflis? Et littéralement, en arabe, le muflis, c'est celui qui est démuni, qui n'a plus d'argent. Et les sahaba ont donné une définition qui allait de ce sens. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, expliquait que non, al-muflis min ummati ati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zaka. Le hadith est un peu long, on va le résumer. Dit que dans ma communauté, le muflis, c'est quelqu'un qui se présentera le jour de Qiyama avec des prières, des jeûnes, la zakat, et ainsi de suite, c'est-à-dire quantité de bonnes actions. Mais malheureusement, cette personne aura également shatama hada, qadafa hada, akalama la hada, il a akhri hadith, wa daraba hada, mais en même temps qu'il est ramené dans son livret de compte les bonnes actions qu'on a citées, mais il a ramené également des péchés. Il a insulté telle personne, il a accusé à tort une autre personne, il a pris les biens d'une personne, il a frappé, il a humilié. Et le jour de Qiyama, les opprimés viendront réclamer leurs droits auprès d'Allah. Parce que la règle, c'est que aucune personne ne peut entrer et donc s'installer dans le Jannah tant qu'il reste encore du mal qu'il a fait aux autres de ce monde, tant que ce mal n'est pas réparé. Et on va dire à cette compensation dans l'au-delà se fera, et ça c'est dramatique, par une distribution de ses bonnes actions. Il va devoir donner aux opprimés ses bonnes actions. Imaginez, la personne a fait 9 umrah de sa vie, 4 hajj. Combien d'argent il a dépensé, mashallah, pour faire ses bonnes actions? Parce qu'en même temps, il a insulté, humilié, fait la médisance, et ainsi de suite, des personnes. Ben, il va devoir donner ses bonnes actions pour rattraper, pour compenser le mal qu'il a causé à ces personnes dans ce dunya. Et s'il arrive que il a fait tellement de mal aux gens qu'il ne lui reste plus de bonnes actions à donner, et il sera contraint de prendre de leur péché. Et ça, c'est vraiment une situation dramatique. Pourquoi est-ce que l'auteur commence ce bab, ce chapitre par ce hadith? Pour qu'on réalise que les péchés peuvent avoir des conséquences sur l'acceptation même de nos bonnes actions. Et là, il développe, il dit ainsi, l'obligation première et la définition du jeûne, c'est wujub as-siyami 'ani at-ta'am wa ash-sharab, bien sûr. Le jeûneur, c'est celui qui ne mange pas, qui ne boit pas et qui n'a pas de rapport intime du matin jusqu'au soir. Mais ça, c'est une abstinence de choses qui, en temps normal, sont licites et autorisées. et qu'Allah a rendu haram mu'aqqatan pour une période fixe du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'à arriver le soir, la personne peut recommencer à manger, boire. Ça, c'est des choses qui sont très claires. Mais concernant les péchés, il dit qu'il doit y avoir cette notion de somme également. Parce que en arabe, quand on parle de somme, as-somm huwa al-imsak. Le mot somme en arabe, c'est s'abstenir de. Ben, le vrai somme du mu'min dans sa vie de tous les jours, c'est être capable de s'éloigner et d'arrêter tout ce qu'Allah a décrété comme haram. Ça, c'est la mission du croyant dans sa vie de tous les jours. Et lorsque le mu'min parvient à se soumettre aux interdits concernant des points licites de le mois béni de Ramadan, du matin jusqu'au soir, d'une certaine façon, c'est pour lui un entraînement et une force qu'il est en train de cumuler et d'amasser pour que face au vrai haram, face au vrai péché, il a également la capacité de dire non. Donc c'est cet entraînement-là. Et ce serait totalement incohérent si quelqu'un dans une journée ne mange pas, ne boit pas, mais il continue à regarder ce qui est haram, à écouter ce qui est haram et à utiliser sa langue pour faire la médisance, la calomnie, insulter. C'est-à-dire que l'incohérence, elle est totale parce que tu es en train de t'éloigner, de t'abstenir de certaines choses qui ne sont pas interdites de le fond, mais tu es en train de faire en même temps des choses qui sont interdites en permanence. Ensuite, l'auteur développe certains points qui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le rappeler. Les interdits concernant le regard, bien sûr, regarder ce qui est haram, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Il dit que d'une façon générale, que ce soit pour le regard, que ce soit pour les oreilles, pour la langue, pour les mains, ce qu'on prend, ce qu'on consomme, l'argent qu'on prend, et ainsi de suite, ou pour les pieds, c'est-à-dire que quand on marche vers un endroit, quelles sont nos intentions, faisons en sorte que toutes ces facultés-là, on reconnaît que ce sont des ni'amas qu'Allah nous accorde. Ces facultés découlent de la santé complète qu'Allah nous donne, quand on a l'utilisation de nos cinq sens et de toutes nos capacités physiques. Il dit que le mu'min qui est reconnaissant, c'est celui qui va utiliser toutes ses facultés, tous ses ni'amas dans l'obéissance et surtout ne pas utiliser ses bienfaits dans le haram. Car dans le Coran, Allah nous rappelle que le jour de Qiyama, ses cinq sens, mais également le corps tout entier, témoignera contre le croyant s'il les a utilisés dans le péché. Il y a pas mal de versets, on va retenir Inna sam'a wal basara, Inna sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Dit l'ouïe, les oreilles, le cœur, à propos de tous, de tout ça, l'homme sera interrogé et questionné. On a également le verset Al-Yawma, la surat Yasin, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim. Afwah, c'est la bouche. En ce jour, leur bouche, sens du verset, sera scellée. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la possibilité de dire blablabla, non, c'est pas vrai, ainsi de suite. Dans un tribunal, bon, si vous avez engagé un avocat, c'est lui qui fait le blabla pour vous. Il est payé pour ça. Que vous ayez raison ou tort, son métier, c'est de défendre la personne. D'accord ? Vous avez avancé 800 euros de frais de dossier, donc c'est son métier de faire avancer votre dossier. Même si vous avez du sang encore sur les doigts, il est là pour... C'est ça, c'est son risque, ça. Allah Moustan. C'est pour ça qu'il y a divergence sur ce genre de métier, jaïz ou non, kalam al-ulama. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, le jour de Qiyama, personne n'a la possibilité, même si vous êtes un orateur de ce monde, personne n'osera même, na'oudou billah, s'opposer au jugement d'Allah et dire que non, ce n'est pas vrai, ainsi de suite. Et pour montrer, pour que ce soit plus, ça impacte plus sur celui qui écoute ce verset, que le jour de Qiyama, donc, les bouches seront scellées. Watukallimuna aydihim. Aid, c'est au pluriel de yad. Watashhadu arjuluhum. Arjul, pluriel de rijl, les pieds, bimakan yaksibun. Donc, les mains et les pieds vont témoigner le sens du verset de ce qu'ils faisaient dans ce monde. Et il y a comme ça pas mal de versets lorsqu'on parle de la peau, c'est ajib. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا même la peau va témoigner Et puis ils vont dire à leur peau, Lima Shahidtum Alina, pourquoi est-ce que vous témoignez contre nous? Ils vont dire que c'est Allah qui nous donne la possibilité de témoigner en ce jour, ainsi de suite. Ça veut dire que l'homme, il ignore, il est dans l'insouciance, dans le rafla, dans le rourour, dans ce nuage de fumée. J'ai l'impression que moi je vais me faire plaisir. En fait, quand tu fais plaisir à ton corps, quand tu sais qu'il y a une nourriture, on ne sait pas si c'est halal ou non, c'est licite ou non. Mais tu veux le manger parce que ça t'apporte un plaisir. C'est un plaisir, oui ou non? Bien. Par exemple, le frère voit un gros gâteau au chocolat dans une boulangerie. Est-ce qu'il utilise l'alcool? Est-ce qu'il utilise la gélatine? Ainsi de suite. Il se pose la question, mais il se dit que le gâteau est trop beau. On ne peut pas le laisser comme ça, haram. Donc il le mange. Mais il a fait plaisir à son ventre. Bon, là, il traverse la rue, il y a une top modèle qui passe. Vous savez, parfois, hein, on est entre nous, mais il n'y a pas besoin que ce soit une top modèle. Hein. Shaitan est là pour embellir les péchés. Ça peut être quelqu'un, quelqu'une, ça ne se dit pas, mais de tout à fait ordinaire. Et Shaitan te fait voir cette personne comme étant Miss Monde, Miss Univers, Miss Simple Type, Miss je ne sais pas quoi. Et Shaitan te trompe, il trompe tes yeux. Ça fait partie du pouvoir que Shaitan a eu, le fait d'embellir les péchés. Enfin, que l'homme a l'impression que, comme dire, ça c'est mon tout ça. Alors qu'en finalité, c'est pas grand chose. Donc, l'homme qui a regardé, il regarde parce qu'il a envie de satisfaire son regard. Pareil, hein, si une femme regarde un homme, c'est dans les deux sens, mais la personne n'imagine pas que le plaisir qu'il essaie de procurer à ses cinq sens ou à son corps, ainsi de suite, ben, ce même corps témoignera contre lui le jour de Qiyama, parce que c'est la sunnat d'Allah. Allah a décrété que les choses se passent de cette façon. Dans le akhirah, que le corps témoignera contre la personne. Ainsi, par exemple, Mu'adh ibn Jabal avait demandé au prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, quand le prophète avait parlé de hifdhul lisan, protéger la langue. Mu'adh avait dit au prophète d'Allah, c'est bien Mu'adh, oui, dit au prophète d'Allah, est-ce que il est possible qu'une personne soit condamnée, en ce sens, hein, à cause d'une parole? Et là, le prophète Sam a réagi et dit, oh, Mu'adh, quelqu'un comme toi qui pose cette question. Et le prophète Sam a dit que combien de personnes seront précipitées au plus profond de l'enfer à cause de dérapages de leur langue, à cause de choses qu'ils ont dit. Et dans le hadith, le prophète Sam a dit, il y a deux textes qui vont de le même sens, qu'une personne peut monter dans le din, dans sa progression vers Allah, mais dire quelque chose un jour qui déplaît tellement à Allah qu'Allah le fait chuter complètement. Imaginez un jour, vous dites une parole vraiment méchante et blessante à quelqu'un. Et là, je donne un cas de figure. Imaginez que cette parole blessante-là, vous le dites à votre papa ou à votre maman. Des gens à qui vous devez le maximum de respect. Barakallahu fik. Et que la personne est tellement affectée, le papa ou la maman, tellement affectée, tellement tristée, et ça déplaît à Allah Azza wa Jal. Et parfois, à cause de quelque chose comme ça, ben, des années d'efforts, de prières, quand on est jeune en plus, c'est pas évident de pratiquer correctement, mais des fois, le mécontentement d'un papa, de la maman, le cœur qui est blessé, ça peut faire chuter complètement la personne, et qu'Allah nous protège. Donc, hifdhul lisan, protéger sa langue. En temps normal, c'est quelque chose qui est demandé aux croyants. Bien sûr, dans la journée de jeûne, c'est encore plus important. Mais qu'on retienne que ce sont là des principes. Ça fait partie de notre vie de mu'min. Au-delà du jeûne, que ne pas boire, ne pas manger, c'est pas la vie du mu'min, ça. Ça, c'est la vie du jeûneur, pendant le mois béni. Mais ta vie de mu'min, c'est éloigné de tout ce qui est haram, parce que n'oublions jamais, en fait, l'auteur parle de l'éloignement des péchés, afin de ramener le lecteur vers une certaine cohérence dans notre relation avec Allah, de ne pas passer à côté de l'essentiel et ne pas se focaliser uniquement sur quelque chose qui est périodique. Quoique cette chose périodique est essentielle pour construire notre pilier, mais n'oublie pas ce qu'Allah attend de toi de façon générale, parce que, on va clôturer là-dessus, l'objectif de la vie du mu'min, ce n'est pas de cumuler les mois de Ramadan. Combien de Ramadan tu vas faire de ta vie ? M'a dit, combien de Ramadan? C'est pas l'espérance de vie d'un homme. 80. Oui, 80. Pas plus à l'école. Et d'une femme? 80 combien? Sauf que, il y a que le nafsin daïqatul maut, et qu'on ne peut pas savoir. Et que personne, inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaytha wa ya'lam ila akhir ayah, Allah seul peut savoir. Il y a des gens qui meurent à 20 ans, il y a des gens qui meurent à 112 ans, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Quelqu'un m'a parlé du cas d'une dame qui avait un cancer et le médecin lui avait dit 3 mois pour vivre. Mais, alhamdulillah, la personne, mashallah, elle a vécu longtemps. Et d'autres personnes, et ça c'est un cas que je me rappellerai toujours, un cardiologue à l'île Maurice, jeune cardiologue, qui dit à tout le monde, il ne faut pas fumer, il faut faire du sport, il faut manger, enfin le truc de 5 fruits et légumes par jour, il y a Ertelab aussi dessus, hein. Mais si on mange des trucs remplis de pesticides aussi, après il faut voir. Mais nourriture saine, c'est quelqu'un qui prêchait ben, des choses correctes. Et il faisait du sport, et ainsi de suite. Ben, arrêt cardiaque. Vous allez dire qu'elle comble sur un cardiologue arrêt cardiaque. C'est pas que tu as pris des précautions, c'est pas que Allah seul le sait. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des chiffres. Quand tu as 50 ans, tu ne peux pas dire que, écoute, selon, je sais pas qui c'est qui fait l'espérance de vie, hein, qui c'est qui a cette autorité, l'INC ou je sais pas qui, ils ont décrété que, théoriquement, je vis jusqu'à 80 ans. Donc, j'ai encore 30 ans, donc laisse-moi vivre mes 30 ans tranquille. Qui t'a dit? Hein, c'est pas une question de chiffres. Ainsi, le mu'min, c'est wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tafsir des mufassirine, tu adores ton Seigneur. Le sens du verset, c'est jusqu'à ce que la mort vienne. L'ange de la mort vienne reprendre. C'est ça l'objectif. Puis l'auteur cite un long hadith. On ne va pas le citer parce qu'on a pris pas mal de temps déjà. Mais il dit que lorsque le croyant meurt, et ça c'est une scène qu'on aimerait voir et vivre, pas uniquement voir. Enfin, on ne peut pas voir, parce qu'on ne voit pas comment tu en meurs. Mon aimerait vivre, c'est que lorsque la personne, le mu'min, il parle du mu'min qui toute sa vie a fait le vrai saum, la véritable abstinence de tous les péchés pour Allah. C'est-à-dire que quand il meurt, les anges viennent le rendre visite. Dans cet hadith de Qurtubi a cité d'At-Tadhkir, on parle d'un cortège de 500 malaïka. Et ce cortège-là précède l'ange de la mort. Et il t'annonce la bonne nouvelle. Quel cadeau divin, quel cadeau de la part d'Allah que dans tes derniers instants, tu vois 500 malaïka et tu les vois vraiment. Parce que quand tu es dans le Sakaratul Maut, tu ne fais presque plus partie de ce monde. Donc, l'au-delà, les portes de l'au-delà se sont déjà ouvertes. Donc, tu vois le monde de l'invisible. Parce que tes heures sont comptées, c'est une question de minutes et de secondes. Et là, les anges t'annoncent la bonne nouvelle et qu'Allah est satisfait. Ayatouha nafsu tayyiba, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan. Maintenant, sors et viens vers le pardon de ton Seigneur et son contentement. Il dit fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fis-siqa. Et l'âme sort comme la goutte qui coule de l'amphore ou du récipient. C'est-à-dire, l'âme sort avec facilité et les anges prennent cette âme, l'enroulent, l'enveloppent, et ainsi de suite, et ils l'amènent avec une odeur, un parfum indescriptible. Mais nous, tout ça, on ne voit pas à nous, parce que nous faisons partie du monde de ce dunya. Et nous n'avons pas de communication avec le monde de l'invisible. Et lorsque cette âme monte vers les cieux, les anges demandent c'est qui. Il a dit que ben c'est telle personne, et en rappelant que c'est quelqu'un qui a été accepté par Allah, Fulan ibn Fulan. Et Fulan ibn Fulan en arabe, c'est un tel fils d'un tel. C'est-à-dire qu'il va citer son nom. Imaginez qu'il va dire que c'est Mohammed Maulana, fils de Moussa. Mais quel grand honneur que notre nom est cité auprès des Malaïka pour dire que Khizar, fils de Moussa, pour dire que c'est telle personne, bien Ahsani Asma'ihi, par les plus beaux noms qui nous viennent de ce dunya. Et cela jusqu'à ce qu'il arrive au ciel de ce dunya et il demande l'autorisation. L'autorisation lui est donnée pour accéder de ciel en ciel jusqu'au septième ciel. Et il est accueilli au septième ciel et Allah décrète que écrivez le nom de mon serviteur parmi ceux qui ont les hauts degrés. Et maintenant que son âme retourne dans son corps et là l'âme retourne. Et c'est à cet instant que les anges se présentent à lui dans la tombe pour lui poser les questions. Quelle est ta religion? Qui est ton Dieu? Que connais-tu de cet homme? On parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il répond correctement, parce que c'est quelqu'un qui a été agréé par Allah, فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ Et une personne annonce la bonne nouvelle depuis les cieux. أَنْ صَدَقَ عَبْدِي Mon serviteur a dit vrai. فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ Que sa tombe soit élargie, qu'il ait des vêtements et des bienfaits du paradis. Et فَيَأْتِيهِ Et un vent frais du paradis lui vient. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ Et sa tombe est élargie jusqu'à perte de vue. Ça, ce sont des annonces prophétiques de hadith rapportées par Nasa'i, rapportées par Ibn Majah, par Imam Ahmad et authentifiées par Albani, rahimahullah. Ça veut dire que ce sont des hadiths qui sont vrais et authentiques. Et c'est pour ça que nous devons œuvrer et travailler. Notre but, ce n'est pas de finir le Ramadan correctement, ensuite retourner vers une vie qu'on dit normale ou ordinaire. Wallah. C'est de réussir à cette épreuve de ce monde pour que j'obtienne ça. Et que dans la tombe, mashallah, j'ai ce ni'ama, et que je sois accueilli par Allah, Rabbul Izzah, comme Allah accueille les personnes qui sont pieuses, qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité de comprendre ses paroles, et le tawfiq, la possibilité de mettre en pratique et d'examiner chaque instant de notre journée de jeûne et de nos soirs du mois de Ramadan, mais également chaque instant de notre vie, et faire en sorte d'accomplir le maximum de bonnes actions et au fur et à mesure d'effacer, d'éloigner, d'éliminer nos péchés afin qu'on arrive à une situation où jamais on ne désobéit à Allah qui complète volontairement. Parce qu'on n'arrivera jamais à une situation où on ne désobéit jamais à Allah. Ça, c'est impossible. Aucun être humain ne peut vivre jusqu'à la mort sans qu'il n'y ait un péché qui s'inscrit dans son livret de compte. Non. هَذَا مِنْ خَصَائِصِ الْمَلَائِكَ Ça, c'est une spécificité des anges. L'être humain, بِطَبِيعَتِهِ De par sa nature, se trompe. Commet des erreurs, commet des péchés, mais Allah est tellement généreux que tu n'es même pas conscient. Tu es en train de faire tes ablutions pour la salat de Isha, en lavant les membres, les péchés que tu as accomplis par inadvertance ou de façon furtive ou autre, ils sont déjà effacés par ton Seigneur. Quand tu fais Maghrib, ensuite tu fais Isha, les péchés qui ont été accomplis entre les deux sont effacés. Il arrête les alik. C'est-à-dire que arriver à une situation où on ne désobéit plus à Allah volontairement. C'est-à-dire que jamais tu n'aies l'intention de faire le péché. Que ça arrive accidentellement, oui, ça, on ne peut rien faire, mais faisons en sorte de ne plus jamais désobéir à notre Seigneur volontairement, qu'Allah nous accepte. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.